car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et en parlant de cela, en proclamant cette parole qui est en apparence négative, eh bien, nous montre dans la suite de ce verset que le Seigneur nous a donné un accès auprès du Père au travers de la personne de Jésus-Christ. Le péché signifie manquer le but. Le but que Jésus-Christ voulait nous donner. Et quand on dit rater son but, c'est rater réellement cette vie avec Christ. Mentir, voler, tricher, se droguer, la dispute, la haine, la dépression, la violence, le mal de vivre, le désordre, les désordres en tout genre. Ça, c'est les conséquences du péché. Mais le vrai péché, c'est de ne pas avoir Jésus-Christ dans notre vie, c'est d'avoir raté le but que le Seigneur avait voulu atteindre sur toute l'humanité, à savoir de sauver les hommes et les femmes. Et je voudrais parler ce soir de ce salut éternel. Et peut-être que tu as été un jour piégé par le diable, alors que tu avais l'intention, à un moment donné de ta vie, dans ton parcours terrestre jusqu'à aujourd'hui, à un moment donné, tu as été attiré par les choses de Dieu, et puis tant de gens autour de toi t'ont dissuadé d'aller plus loin en te disant « mais ça sert à rien, de toute façon Dieu n'existe pas ». Et puis peut-être d'autres ont dit « mais ça c'est que pour les mauviettes de venir à Jésus-Christ, c'est que pour les faibles ». Voilà que dans ta vie, alors tu t'es fermé à ces choses-là et tu as continué ta vie sur cette terre, mais avec des obstacles, avec des problèmes, et tu as encaissé des coups, et tu as encaissé des coups, et tu as encaissé des coups, et voilà qu'aujourd'hui tu es comme, je dirais, brisé et détruit ou détruit dans ton cœur. Et c'est pour cela qu'il y a ce témoignage extraordinaire que je voudrais vous partager ce soir dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, au verset 25. Oh, c'est un texte bien connu, mais sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants parce que ça vaut vraiment la peine. Il est dit ceci au verset 25 de Marc 5, 25. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie ». Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit « Qui m'a touché ? Qui a touché mes vêtements ?» Et ses disciples lui dirent « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Et la femme, effrayée, tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » J'aime ce texte sur cette femme à la perte de sang. Vous allez voir, au fur et à mesure où on va dérouler cette histoire, vous allez comprendre là où le Seigneur a voulu amener cette femme, finalement, à la fin de cette histoire. 12 ans de souffrance. 12 ans où, je dirais, d'attente interminable d'une solution. De souffrance atroce pendant toutes ces années. 12 ans où cette femme a dépensé l'argent qu'il a finalement ruiné, puisqu'il nous est dit dans ce passage, dépensant tout ce qu'elle possédait, elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Cette femme avait essayé, je dirais, par elle-même de se sortir de cette situation. Et pour finir, elle allait en empirant, bref, la vie de beaucoup trop de gens. Des gens qui aujourd'hui sont touchés dans leur corps, peut-être c'est pas mortel. Cette femme, ça faisait 12 ans qu'elle était dans cette situation. Ce n'était pas un cancer foudroyant où en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, elle allait quitter ce monde. Non, pas du tout. Mais en tout cas, il y avait cette souffrance qui était là. Et en plus de cette souffrance physique, il y avait une souffrance morale, une souffrance psychologique. Il y avait cette souffrance qui faisait qu'elle ne pouvait plus côtoyer ses amis, elle n'avait plus de relation avec sa famille. C'est quelqu'un qui était pas rejetée, mais vu sa situation, elle ne pouvait pas côtoyer ce qu'elle aimait le plus cher. Et le pire dans tout ça, en plus, c'est que la loi de l'époque lui interdisait de sortir à cause de la perte de sang. C'est-à-dire qu'elle ne trouvait même pas de solution dans la religion. Sa religion ne pouvait même pas le sortir de cette affaire. Elle criait à son Dieu, mais finalement, ça ne servait à rien, puisque de toute manière, la religion l'interdisait, je dirais, de sortir et de se sortir de cette situation. Elle était comme, je dirais, emprisonnée dans son mal, de tous côtés, de la famille, de la religion, des amis. Elle était là, elle ne savait même plus quoi faire, et puis financièrement, elle n'avait plus de quoi payer. C'était la misère totale dans cette femme. Et on s'aperçoit que dans ce passage, alors, à un moment donné, elle a réagi. Par son geste, elle va renverser les tabous. Elle n'avait pas le droit de sortir, mais elle va sortir. Elle entend parler de Jésus. Ce n'est pas une religion. Elle entend parler de quelqu'un qui guérissait les malades, qui faisait entendre les sourds, voir les aveugles, parler les muets. Il avait peut-être entendu parler de ce Jésus qui marchait sur les eaux, de cette puissance extraordinaire de ressusciter Lazare. Elle avait entendu ce Jésus-là. Alors, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a brisé les tabous. Les qu'en dira-t-on de ce monde ? Et peut-être que toi, tu es prisonnier dans tes tabous, peut-être dans les qu'en dira-t-on de cette société. Alors, tu ne bouges plus, tu es là, coincé de tous côtés par ton mal qui est là au plus profond de ton cœur, que tu ne même peux plus partager parce que personne ne te comprend. Tu peux même plus en parler parce que personne ne t'écoute. Et voilà que ce soir, Jésus passe. Il passe ici dans ce lieu. Comme cette femme à la perte de sang, Jésus est en train de passer là. Et vous savez, je vais vous dire une chose, Jésus se moque des tabous lui aussi. Il se moque des coutumes, des traditions humaines. Parce qu'il comprend la souffrance des hommes. Il sait ce qu'elle est en train de passer, cette femme. C'est facile de condamner, de juger, d'accuser. Oh, la religion, elle est là pour finalement toujours écraser les hommes. Et Jésus savait très bien la position qu'avait cette religion vis-à-vis de ces gens. Alors, il se moque de ses tabous et il répond à la souffrance. Et cette femme n'a pas peur. Elle va briser ce mythe, elle va ouvrir la porte, alors qu'il y a la foule qui est là, alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se ruer vers Jésus-Christ. Jésus est en train de passer là au loin, et cette femme, elle court, personne ne la remarque. Parce que si à ce moment-là, Jésus ne passait pas par là, on l'aurait remarqué, cette femme. Oh, la femme à la perte de sang, ça fait tant d'années qu'elle est là, elle sort maintenant, attention, elle est impure. Mais elle profite du moment où tout le monde s'agglutine vers Jésus-Christ pour s'approcher de lui. Parce que quand il y a une foule qui est là, plus personne ne vous regarde. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà assisté ou si vous avez déjà été dans un bain de foule. Vous êtes remué de tous les côtés. Vous ne savez même pas qu'il y a devant, derrière, devant vous. Ça bouscule de tous les côtés. Vous ne savez même pas ce qui se passe autour de vous. Et c'est à ce moment-là, justement, où personne ne vous remarque que cette femme à la perte de sang s'approche de Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'elle va essayer de saisir quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'elle avait cette perte de sang qui l'a traumatisée. Et d'autres, ben c'est la perte de l'emploi. Peut-être que toi, c'est la perte du sommeil. Peut-être que aussi, c'est la perte du goût de vivre. C'est la perte peut-être de ton époux, de ton épouse, de tes enfants. Un jour, il y a eu un drame dans ton foyer. Ça a été une perte et ça a été une déchirure dans ta vie. Et tu vis avec cette perte. Peut-être que tu as d'autres pertes dans ta vie, c'est la perte de la joie, du bonheur. La perte aussi peut-être de l'estime de soi. Tu ne t'aimes plus. Tu ne peux même plus te regarder dans une glace. Tu te détestes. J'ai vu ça sur un jeune de 16 ans en colonie. Un matin, alors que j'allais prendre ma douche, j'avais un jeune qui était là en train de se laver les mains et en se regardant dans la vitre de la salle de bain, il se regarde, il se donne un grand coup de tête et il s'ouvre le devant du front. Et là, il tombe par terre, il s'écroule parce qu'il était tellement assommé, il a tellement tapé fort. Et en se réveillant, on appelait les pompiers, tout ça, il est venu. Bon, il n'y avait rien de mal, mais son geste était de dire « Je me déteste, je ne m'aime pas ». Il y a des gens qui ne s'aiment plus, il y a la perte de l'estime de soi dans leur vie. Et cette femme, elle dit, ça suffit, il faut réagir. Et tu es ici peut-être ce soir avec peut-être, t'étais pas venu dans cette intention de peut-être de réagir comme cette femme à la perte de sang, et tu te dis mais finalement oui c'est vrai, ça suffit de perdre maintenant. J'aimerais peut-être un jour rattraper ce temps perdu, peut-être retrouver ce que j'ai perdu. Et tu es là, et cette femme avait peut-être dans son cœur, et c'est certainement, je dirais, quelque chose qui était là. Elle avait ce désir de retrouver ce qu'elle avait perdu. Alors elle vient avec un cœur, mais avec un cœur sincère. Je vous ai dit, elle a entendu parler de Jésus, comme vous aujourd'hui, ce soir. Elle a entendu parler du Messie. Elle n'avait jamais vu Jésus faire un miracle sur sa vie. Vous savez, quand on parle de Jésus aujourd'hui, on dit souvent « Ouais, mais Jésus, il le fait pour les autres, mais pas pour moi. » Et tu t'es dit ça pendant plusieurs années. « Oh, Jésus le fait pour les autres, mais pas pour moi. » Et cette femme, elle a dû se dire à un moment, une fraction de seconde, elle a dû réagir en disant « Oh, mais c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Mais quand elle a commencé à récapituler toute sa situation, toute sa douleur, tous ses problèmes, toutes ses difficultés et toute la perte qui est là depuis 12 ans, elle a dit « Non, ça suffit, je vais quand même y aller. » Et c'est pour ça qu'au verset 27, il a entendu parler de Jésus. Elle vient dans la foule, par derrière et touche son vêtement. Il y a une réaction, elle a entendu, comme toi. Elle a entendu ce message. Et elle est venue, comme toi ce soir. Tu viens ici et tu entends le message. Et comme il est dit dans ce passage, elle toucha le bord de son vêtement. Et je voudrais dire par la foi, comme toi ce soir. Tu vas toucher le bord de son vêtement. Parce que Jésus-Christ t'a donné un rendez-vous ce soir. Un rendez-vous de salut. Un rendez-vous de vie éternelle avec lui. Elle fait cela car elle disait au verset 28, « Si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements, je serai guéri. » Ce n'est pas une doctrine, dis donc. Ce n'est pas marqué dans la Bible. « Touchez le bord du vêtement, vous serez guéri. » C'était la foi qui parlait. Elle savait très bien que quelque part, si elle faisait cette démarche, il y aurait quand même quelque chose qui allait se passer. Elle agit, elle ne dit pas « peut-être que je serai guéri ». Elle n'est pas là dans le conditionnel, elle est dans l'affirmation. Elle est dans quelque chose de déterminé. C'est une femme qui, à un moment donné de sa vie, au bout de 12 ans, elle se dit « maintenant, il faut que je me bouge, il faut que je réagisse, j'ai tout essayé ». Et finalement, elle s'est retrouvée au pied du mur. Est-ce qu'il faut que tu attendes que tu sois au pied du mur pour réagir ? Peut-être que tu l'es ce soir au pied du mur. Alors c'est peut-être maintenant de réagir. Comme cette femme à la perte de sang. Elle s'est mise à réagir, à se bouger. Surprise. C'est que Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il dit « Qui m'a touché ?» Mais qui m'a touché ? J'aimerais que ce soir, Jésus puisse dire la même chose pour toi. Que ce soir, Jésus puisse dire « Mais qui m'a touché ?» Parce que tu auras fait ce pas de foi, tu auras saisi le bord du vêtement de Jésus. Alors que la foule était là. Et en allant un petit peu plus loin, chose incroyable, c'est qu'au verset 31, ses disciples lui disent « Mais tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. » Oui, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Là est toute la différence avec l'approche de cette femme et celle de la foule. Je vais vous dire une chose de très importante ce soir, c'est que nous pouvons toucher Jésus sans être touchés par lui. L'exemple de la foule qui ont touché Jésus. Les gens le touchaient à l'épaule comme ça, de loin, ils arrivaient à le passer avec la foule. D'autres parlaient aux pieds, au ventre, sous la tête. Vous avez jamais vu déjà à la télévision quand des stars passent ou quand des personnalités, on veut essayer absolument de les toucher. À cette époque, il n'y avait pas de garde du corps, alors Jésus passait et tout le monde pouvait le toucher. Tout le monde était proche de Jésus-Christ. Des milliers de gens ont touché Jésus à ce moment-là. Mais il y avait une touche qui était différente des autres. Et c'est celle-là qui a fait la différence. Et dans cette touche-là, ce soir, il y a quelqu'un qui a cette même approche. Et ce soir, Seigneur voudrait que tu aies cette même touche-là, que tu puisses saisir la puissance de Jésus-Christ et que cette puissance fasse la différence dans ta vie et dans ton cœur. Oui, nous pouvons toucher Jésus sans être touchés par lui. Tout dépend quelle est l'approche, ton attitude. Tout dépend de ce que tu attends de lui ce soir au plus profond de ton cœur. Le plus impressionnant, c'est qu'elle ne demande rien à Jésus. Dans ce texte, elle saisit le miracle. Dans ce texte, elle touche le bord du vêtement, comme il nous est dit dans sa parole, et elle fut guérie, comme il est dit là. Hein, il est dit au même instant, verset 29, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle le sentit, pas besoin qu'on lui dise. Il y avait quelque chose qui était là, qui faisait qu'elle était convaincue que Dieu l'avait touchée. Devant ces milliers de gens, cette personne au milieu qui a touché Jésus a été complètement guérie. Mieux, dans les faits, elle n'a jamais demandé à Jésus de la guérir. Regardez dans la parole de Dieu, là. Elle n'a jamais demandé à Jésus de la guérir. Mais Jésus a fait un miracle parce que derrière, il y avait la foi. Derrière, il y avait un désir. Derrière, il y avait une passion. Alors, le résultat, c'est quoi dans ce passage? Et c'est là où je voudrais en venir, et c'est là où je voudrais attirer votre attention ce soir. C'est au verset 34, Jésus lui dit, ma fille, il y a déjà cette complicité. Ma fille, il y a cette relation-là, comme si c'était le père à sa fille, il y a vraiment ce contact, ce rapprochement. Il dit, mais ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, sois guérie de ton mal. Remarquons que Jésus parle d'abord de salut dans ce passage. Il ne parle pas de la guérison, là. Cette femme à la perte de sang, cette femme qui depuis 12 ans était malade, qui était cloîtrée dans sa maison, elle pouvait sortir ni d'un côté ni de l'autre, elle était rejetée de tout le monde, même la religion ne la voulait pas. Et voilà qu'à ce moment où elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle est guérie et Jésus lui dit « ta foi t'a sauvée ». Pourquoi ? Parce que finalement le plus important dans tout ça c'est le salut. Jésus regarde d'abord au salut. Jésus regarde d'abord la vie éternelle et c'est pour ça que je pose la question ce soir. Est-ce que tu es sauvé? Au-delà de la perte peut-être de la joie, de la perte peut-être de quelqu'un, de la perte de ton travail, de la perte d'une situation, est-ce qu'au-delà de tout cela tu es sauvé? Est-ce que Jésus t'a pardonné de tes péchés? Est-ce que tu es sûr d'avoir la vie éternelle? Toutes les questions, ça, et il faut avoir une réponse là-dedans. C'est pour cela qu'il nous est parlé dans ce passage qu'elle est repartie avec trois choses. Le salut, la paix, la guérison, puisqu'il est dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, ça c'est une chose. Va en paix, ça c'est une deuxième, et sois guérie de ton mal. Elle est allée pour la guérison, elle est revenue avec deux choses en plus. Parce que Dieu donne au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. C'est incroyable avec Jésus. Trois en un. Ah ça, c'est des capes avec Jésus. Le Seigneur est capable de changer ton cœur. Et c'est ce qu'il veut faire, c'est d'abord décaper ton cœur. Si tu as perdu une chose, le Seigneur va entendre trois fois plus. D'abord le salut. Parce qu'avant tout, ce que cette femme avait d'abord besoin dans sa vie, c'était le salut. C'était la vie éternelle. C'était d'avoir le pardon de ses péchés. C'est pour ça que Jésus, un jour, il est mort à la croix du calvaire. Il est mort pour toi. Comme je le dis souvent, sur cette croix, son cœur a cessé de battre pour que le tien puisse continuer à battre, mais qu'il vive éternellement ce cœur. Et c'est pour cela que Jésus, il dit, mais va, ta foi t'a sauvée. Avec la foi, elle a été sauvée, mais elle a aussi reçu la paix. Et ça découle, vous savez, quand on a le salut, on a la paix automatiquement. Il y a combien de gens aujourd'hui dans ce monde qui n'ont pas la paix, qui ont des journées noires, des nuits blanches, qui sont traumatisés, bousculés, qui sont chahutés dans leur esprit, dans leur cœur, dans leur corps. Ils sont là comme brisés. Et peut-être que toi, tu es là et tu n'as pas la paix. Mais tu n'as pas la paix parce que tu n'as pas le salut. Et tu as besoin du salut. Et Jésus veut te le donner ce soir. Il veut te sauver. Il est mort à la croix pour ça. La Bible nous dit que par son sang, nous avons le pardon de nos péchés. Et pour ça, sur cette croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au travers de la croix du calvaire, ça a été l'occasion de rassembler toute l'humanité et de réconcilier l'humanité avec le Père. À les conditions qu'on le veuille. À les conditions que toi, tu le veuilles ce soir. Que ce soir, tu fasses la paix avec ton Père céleste. Et cette femme, elle a été sauvée, elle a eu la paix. C'est comme un bouchon qui est sorti, c'était vraiment une libération. Et puis en même temps, elle est partie complètement guérie. Et en guérissant, voilà, quelle joie! Elle allait retrouver ses amis, elle allait retrouver sa famille, peut-être ses enfants, son mari. Elle pouvait sortir, elle était libre. Mais elle était réellement libre. Elle était libre dans sa tête, elle était libre dans son cœur, dans son corps. Elle était libre dans sa vie. Il y a tant de gens dans cette société qui courent, qui sautent, qui volent, qui font tout ce qu'ils veulent, mais ils sont prisonniers. Ce sont des prisons mentales. Ils sont tenus par leurs péchés. tenus par la mort éternelle parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. Si le Fils t'a franchi, tu seras réellement libre. Adieu l'esclavage, vive la liberté. Et c'est ce que le Seigneur Jésus voudrait faire simplement ce soir. Le salut ne se mérite pas. Parce qu'on ne mérite rien. Le salut ne se négocie pas. Parce que finalement, ce n'est pas avec les bonnes actions qu'on peut être sauvé. C'est par grâce. Et puis, le salut ne s'achète pas. Tout a été payé à la croix. Tout a été payé à la croix du calvaire. Quelqu'un pouvait dire, mais nous sommes trop pauvres pour acheter le salut. Lui, Jésus, il est trop riche pour nous le vendre. Alors, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Vous savez, la Bible déclare ceci, il n'y a de salut en aucun autre. En parlant de Jésus, en aucun autre il y a le salut, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est pour ça que Marie, la mère de Jésus, a pu dire, quand il y a eu le miracle de l'eau et du vin, il a dit à ses gens, ses convives, tout ça, faites ce qu'il vous dira. Jésus a changé l'eau en vin, mais ce qu'il a fait là, il est capable de changer aussi ton cœur, en ténèbres, en lumière, de transformer ta vie. Et je vais terminer avec un texte que peut-être vous connaissez, c'est dans l'évangile de Luc au chapitre 16. Et au verset 19, il nous est parlé de l'homme riche et Lazare, parce que ça va dans le même sens de ce que je viens de dire là. Ça corrobore un petit peu cette pensée que Jésus a, le but que Jésus a pour l'humanité entière. Même si tu viens pour quelque chose de particulier, le Seigneur a une idée pour ta vie, il a quelque chose de plus pour toi. En plus de ce que tu veux, il va t'apporter quelque chose de supplémentaire que tu ne pensais pas. On parlait de salut, mais c'est de ça qu'on parle. Il est dit au verset 19 du chapitre 16, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein et s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de ses doigts dans l'eau et me rafraîchisse sa langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant la vie. » Et que Lazare a eu les maux pendant les siennes. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous et de là vers nous ne puissent le faire. Et le riche dit, je te prie donc, Abraham, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader même si quelqu'un des morts ressuscité. C'est un texte, je dirais que c'est une bombe ce texte. C'est Jésus qui explique cet événement et on s'aperçoit que dans cette situation, il nous est parlé de 2 morts, mais aussi de 2 destinées. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, mais toi, où tu vas aller? Quelle va être ta destinée? Seras-tu dans cette voie de Lazare ou de cet homme qui a mené joyeuse et brillante vie sur cette terre? Il n'y a que toi qui peux répondre à cette question. Parce que la Bible nous donne la certitude du salut. On sait si on est sauvé ou si on est perdu. Si tu as le Fils, tu as la vie éternelle, nous dit la Bible. Alors vous savez, cet homme menait joyeuse et brillante vie. Oh, c'était un homme heureux. Il était heureux. Mais je vais vous dire une chose ce soir. Peut-être que je vais en étonner quelques-uns. Mais le Seigneur Jésus, lui, ça ne l'intéresse pas qu'on soit heureux. Il ne veut pas des hommes heureux. Il ne veut pas des personnes qui soient heureuses. Ce n'est pas ça qu'il veut. Dans la parole de Dieu, il est dit ceci dans les cantiques de Marie. Marie dit, c'est au chapitre 1er, verset 46, Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Dans ce monde, vous avez 3 catégories de personnes. Vous avez des gens heureux qui ont tout pour être heureux sur cette terre. Vous avez des gens malheureux, et on en trouve tous les jours dans Paris, au bord de la route, des gens même qui sont cachés, qui sont brisés par la société, détruits peut-être ce soir, tu en fais partie. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on est bien heureux. Et c'est là toute la différence. Entre ce que propose le monde, ce bonheur virtuel, ce bonheur passager. Oh oui, il y a des gens qui sont heureux dans ce monde, c'est vrai. Mais Jésus, lui, te propose d'être bien heureux. C'est-à-dire au-dessus de ce que le monde, je dirais, te tend. Une vie complètement transformée. Et c'est ce qui se passe dans ce passage. Parce que finalement, cet homme a vécu une vie heureuse, mais après, quand il est parti, eh bien, il est tombé dans le malheur, dans le chagrin, dans le désarroi. La parole de Dieu nous dit qu'il était dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il était là vraiment dans la détresse, il cria « Père Abraham, aie pitié de moi !» et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Il était dans les souffrances car je souffre cruellement dans ces flammes. Vous comprenez pourquoi Jésus a d'abord parlé de salut à cette femme, à la perte de sang? Parce qu'il y avait plus important que la guérison. Malgré que Dieu ait guéri cette femme, au-delà de tout cela, il y avait d'abord la guérison de l'âme. La guérison, je dirais, de ton cœur. Et Jésus, vous savez ce qu'il voudrait faire ce soir? Il voudrait te guérir, toi, te sauver complètement et parfaitement. Et cet homme a commencé à tomber dans les regrets. Et quand on part, on quitte cette terre. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter cette terre. Parce que notre vie ne nous appartient pas. On peut sortir de ce lieu et disparaître. On peut aller se coucher ce soir, ne pas se réveiller demain. Et où va être ton cœur? Où va être ta vie? Où va être ton âme dans ces cas-là? Est-ce qu'on doit perdre et on doit prendre le risque, je dirais, d'attendre et de partir de l'autre côté pour l'éternité dans des souffrances cruelles et plus que cela dans des regrets éternels? Alors vous allez peut-être me parler de quelque chose. Du purgatoire. Oui, mais il y a un passage, justement, où il nous est parlé, où il nous est montré que le purgatoire n'existe pas. Il est dit dans ce texte, Lazare a eu ces mots pendant les siennes, et maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. Il n'y a plus d'accès. Et c'est pour ça que si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Fais la paix avec ton Père. Fais la paix avec Dieu. Fais la paix avec celui qui t'a montré parfait amour au travers de son Fils mort à la croix du calvaire. Il t'a montré le summum de son amour à ton égard en donnant son Fils sur cette croix. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Et que plus tard, ça sera trop tard. Parce qu'il nous a laissé un message très clair qui nous montre que c'est aujourd'hui ou jamais. Et c'est pour ça que Dieu t'invite ce soir à te tourner vers lui, à l'accepter comme seul sauveur personnel, à tout simplement faire la paix avec Dieu, afin que, à partir d'aujourd'hui, tu aies la paix dans ton cœur, tu aies la paix dans ton âme. J'aimerais qu'on puisse courber nos fronts quelques instants. Puissions-nous recueillir, puissions fermer les yeux. Je demanderai aux musiciens de venir prendre place. J'aimerais ce soir prendre un moment, un instant, où on puisse peut-être traiter ensemble ce sujet du salut. Mon ami, tu as entendu le message de Dieu. Tu as entendu ce message sur la vie éternelle. Et Jésus, au-delà de la guérison, il voit beaucoup plus loin pour nous. Il est vraiment un père pour nous parce qu'il voit au-delà même de ce qu'on peut penser, de ce qu'on peut voir. Cette femme ne pensait pas un instant à son salut, ne pensait même pas un instant à avoir la paix dans son cœur. Elle est venue pour une guérison, mais elle est repartie avec trois choses. Tu es venu avec quelque chose ce soir parce que tu as perdu peut-être beaucoup dans ta vie. Et tu es peut-être comme cette femme, tu as dit « Maintenant, ça suffit, j'arrête là, c'est bon ». Maintenant, il faut vraiment que je prenne une décision avec Dieu. Peut-être ça fait quelque temps que tu viens à l'église ou ça fait même peut-être longtemps que tu viens entendre la parole de Dieu. Mais le Seigneur voudrait traiter avec toi un point important sur lequel tu n'es pas sûr, sur le point sur lequel tu ne sais pas si tu es sauvé, si tu as la vie éternelle. Jésus voudrait que tu fasses la paix avec lui ce soir. Jésus voudrait que tu te réconcilies avec lui. Ce ne soit pas un rapprochement d'amitié, de sympathie. Dieu ne regarde pas les choses comme cela. Lui, il voit un cœur, il voit une vie, il voit ta situation, il voit un problème, le tien. Il voit ta misère, il voit ta détresse. Et tu viens pour une solution comme cette femme à la perte de sang, mais Jésus a plus pour toi ce soir. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, les têtes baissées, je demanderai déjà aux chrétiens de prier intérieurement, d'intercéder. Il y a vraiment un combat quand on parle de salut, quand on parle de vie éternelle. Il y a vraiment quelque chose de particulier. Et c'est pour cela que ce soir, je voudrais vraiment, vraiment que tu prennes vraiment attention à ce que nous te disons ce soir, parce qu'il y a quelque chose d'important pour toi. Alors que nous sommes là, les yeux fermés, les têtes baissées, que nous sommes devant le Seigneur, s'il y a quelqu'un ce soir qui voudrait vraiment faire la paix avec Dieu, qui voudrait saisir la vie éternelle, peut-être que quelque part dans ton cœur, tu te retrouves un peu avec cette femme à la perte de sang, je te demanderai de lever ta main là où tu es à ta place. Alléluia. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce soir? Oui. Oui, le Seigneur veut te toucher. Est-ce qu'il y a d'autres personnes encore ce soir qui voudraient vraiment avoir cette vie éternelle, qui voudraient vraiment, vraiment que Dieu impacte leur vie, impacte leur cœur. Que le Seigneur vienne les toucher. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ce soir? Que Dieu vienne vraiment leur donner cette vie d'en haut. Que Dieu vienne les toucher de manière particulière. Alléluia. Guillaume va nous conduire dans un chant. Nous allons rester dans le recueillement. Guillaume va nous conduire dans un chant et on va se laisser diriger par le Seigneur ce soir. Peut-être des amis, ceux qui ont levé la main ce soir, on voudrait vraiment prier avec vous. Mais vraiment nous accorder avec vous. La parole de Dieu nous dit quand deux s'accordent pour demander une chose, le Seigneur veut les exaucer, le Seigneur veut leur accorder sa grâce. Alors pendant que Guillaume va nous conduire dans un chant, vous qui avez levé la main, je vous demanderai de vous approcher au devant. Et les frères qui sont là vont prier avec vous personnellement, vont prendre du temps avec vous dans la prière. Vont demander vraiment à Dieu d'agir sur votre vie, que vous ressortiez de ce lieu vraiment avec quelque chose de particulier en vous. Alléluia. Que le Seigneur impacte votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Guillaume, si tu peux nous conduire dans ce chant. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, amen.